Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. À la radio, il est un point sur lequel il faut toujours rester vigilant, c'est la manière dont on ouvre l'émission, les mots qu'on choisit pour que l'auditeur se retrouve instantanément en terrain connu, tout en éveillant sa curiosité, en lui faisant comprendre à quel point le programme qu'il s'apprête à écouter est unique et particulier. Voilà une remarque qui vaut certes pour la radio, mais qui s'applique à tout si l'on y réfléchit un peu. C'est la première phrase d'un roman, la première séquence d'un film, les premiers mots d'une pièce, les premières notes d'un opéra, le coup d'envoi d'un match, le premier pain d'un combat, la fameuse première gorgée de bière. En un mot, comme en mille, l'ouverture. Mais comment trouver une ouverture digne de ce nom si l'on a comme invité un homme lui-même synonyme d'ouverture? Un homme qui fut tour à tour roi, poète, saltimbanque, peintre, photographe, à moins que ce ne fût les cinq en même temps, et dont l'apparence rudanière est inversement proportionnelle à la délicatesse de sa sensibilité. Et donc, pour revenir à ce que je disais il y a quelques instants, il faut choisir avec soin la manière dont on ouvre une émission. Tiens, en temps normal, j'aurais attaqué aujourd'hui par cette histoire invraisemblable d'une chaîne de magasins anglais contrainte de retirer de la vente du papier toilette triple épaisseur enrichi à l'aloe vera sur lequel une cliente avait cru discerner de manière plus ou moins subliminale le nom d'Allah. Mais petit 1, je me serais fait encore taper sur les doigts par mes amis barbus radicaux, et petit 2, pour ce qui est des barbus, j'ai le plus beau d'entre tous en face de moi pour l'heure qui vient. Enfin, il l'était dans le film dont nous allons parler. Éric Cantona est l'invité de Popopop.
France Inter. Popopop. Antoine de Paule.
Bonjour Éric Cantona.
Bonjour.
Mais où elle est passée la barbe?
Elle est passée... Elle va revenir.
Elle est passée à la trappe? Elle va revenir?
Oui, oui.
Là, vous l'avez coupée pour des essais?
Non, je l'ai coupée pour des essais hier, ouais. Ah, ouais, on a fait différents trucs, différents... Ouais. Donc, on est arrivé à faire, ouais, voilà. Non, mais elle va repousser. Donc, on commence dans un mois.
Normalement, ça repousse, oui.
Oui, j'espère.
Donc, vous allez avoir une barbe dans le prochain film?
Il y a différentes périodes, ouais. Ah, okay. Ouais, il y a une période où je l'ai.
Ouh, quel mystère, quel mystère. À mes côtés, celle qui a plus envie de faire une photo avec vous que de vous poser des questions, Charline Rooks.
Oui, j'aime bien faire des photos avec des gens au physique cinématographique. C'est pas tous les jours. Bonjour Eric, bonjour Antoine.
Bonjour. Une photo avec Eric.
Soyez pas jaloux, j'en prenne avec vous aussi.
Au menu également de Pop Pop Pop, Sébastien Bédé, le réalisateur du film Ulysse et Mona. Eric Cantona, ici, il existe une question encore plus anxiogène que les jingles de chaînes d'info continue dont vous raffolez, m'a-t-on dit ?
BFM TV, priorité au direct.
Cette question, c'est... Pour vous, Éric Cantona, c'est quoi la pop culture ? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses frappadisjonctives, saugrefanesques, sardinophiles, expérimenteuses, et parmi mes préférées, il y a celle de l'artiste Ernest Pignon Ernest.
Quand j'ai appris que Robert Delpierre était mort, je me suis dit que lui, pour ce qui concerne le monde de l'image, il a contribué beaucoup à l'image de la pop culture en France. C'est-à-dire, c'est lui qui a fait les pubs pour les deux chevaux et les DS19.
Oui, absolument.
Vous voyez, je veux dire, ouais, vraiment très concrètement, c'est un type comme lui qui ont contribué à l'image pop.
Voilà pour Ernest Pignon Ernest. Et pour vous, Éric Cantona, c'est quoi la pop culture?
Et la pop culture, je sais pas, ça peut être Jeff Koons, hein.
Par exemple.
Ouais, c'est parti du pop art, de toute façon.
Ça
pop
peut.
Pop musique.
C'est ce que vous voulez.
Au popcorn, au multiplex, et Jeff Koons dans un multiplex devant un Robocop. Quoi.
Alors Jeff Koons dans un multiplex en train de bouffer du popcorn
devant Robocop.
Devant Robocop, c'est une définition qui me convient. Vous l'avez validée, Charline?
Ah oui, oui.
Oui, bon. Très bien, voilà, l'émission a démarré. Éric Cantona, la pop culture, on va en parler jusqu'à 17h, mais pour l'heure, écoutons Super Chéri, le tout nouveau morceau de Mathieu Chédid.
Super chérie, super chérie, super chérie.
Voilà, en guise d'échauffement, Super Chérie, dernière pépite pop signée M. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de King Eric. Mais alors, pourquoi notre invité mérite-t-il ce surnom royal? Réponse avec son pop portrait. Alors, votre pop portrait, Eric, c'est votre portrait, mais...
À base de pop, pop, pop.
Et c'est signé Charline...
Aujourd'hui, nous recevons un invité qui, si on devait le résumer, quelle drôle d'idée, pourrait être caractérisé par son besoin viscéral de s'exprimer. Ce qu'il a d'abord magistralement fait hein, sur les terrains, expression corporelle, je vous ferai pas l'affront de rappeler les exploits et le palmarès de Ouha Cantona. Et puis après quelques aphorismes bien sentis et toujours pleins de bon sens, c'est au ciné que notre invité a choisi de dialoguer. Alors chez Étienne Chatillier, chez Jean Becker, chez Alain Corneau, chez Frédéric Schoendorfer, chez HPG, chez Yann Gonzalez et même en dessin animé puisqu'il est Eduardo Pérez dans Moi, moche et méchant. Et bien sûr chez Ken Loach. Car n'oubliez pas.
I'm not a man, I am Cantona.
Car oui, cet invité-là est bigger than life et quand il s'exprime, c'est avec force et singularité, comme en témoigne le palmarès ciné tout juste énoncé. Sur les planches aussi, il va parler. Et par l'art, il s'est aussi partagé et ça tombe bien puisque l'objet qui l'amène aujourd'hui parle précisément d'art et de ciné. C'est Ulysse et Mona de Sébastien B de BD et aujourd'hui, c'est dans Pop 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 qu'Éric Cantona est venu s'exprimer.
Éric, je sais que vous n'aimez pas qu'on retouche les portraits que l'on fait de vous, enfin les portraits photos. Est-ce que ça marche aussi pour les pop portraits?
Mais il était super, ça.
On le garde comme ça, alors?
Ouais, parfait, okay. Magnifique.
Et you're not a man, you're Cantona.
I'm not a man.
Toujours.
C'est étonnant, l'accent marche mieux chez Éric que chez vous, patron.
Comment
si
ça
je peux me permettre.
Mais arrêtez avec mes accents. Oh, bon, ok, d'accord. Alors, continuons cette exploration du royaume de King Éric avec la pop list. Hop. Nous vous avons demandé, Eric, de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. On va commencer par le livre, puisqu'au début était le verbe. Votre choix se porte sur un livre d'Antonin Artaud, Van Gogh ou le suicidé de la société, paru en 1947. Charline, rappelez-nous pourquoi Artaud était tellement fasciné par Van Gogh. Ça nous changera de Spider-Man et autres Ariana Grande.
Il adorait aussi, hein, ceci dit. Oui. C'est précisément en 1947 que le musée de l'Orangerie consacre une exposition au peintre. Et à cette occasion, Antonin Artaud publie cet essai dans lequel il rend hommage à la fois à l'œuvre de Van Gogh et en profite pour remettre en question sa folie supposée.
D'accord. Éric, pouvez-vous nous lire quelques lignes du livre d'Artaud avant de nous expliquer ce que vous aimez tant chez lui, s'il vous plaît?
Et c'est ainsi, si délirante que puisse paraître cette affirmation, que la vie présente se maintient dans sa vieille atmosphère de stupre, d'anarchie, de désordre, de délire, de dérèglement, de folie chronique, d'inertie bourgeoise, d'anomalie psychique. Car ce n'est pas l'homme, mais le monde qui est devenu anormal. De malhonnêteté voulue et d'insigne tartufferie, de mépris crasseux, de tout ce qui montre race, de revendication d'un ordre tout entier basé sur l'accomplissement d'une primitive injustice, de crime organisé, enfin.
Texte puissant, Antonin Artaud. Dites-nous pourquoi il vous touche à ce point-là.
Ben, il me touche parce que j'ai toujours été fasciné par la folie, par l'idée de la folie, par les limites qu'on a mis, ce qui est ou devrait être normal selon
les bornes,
certains critères. Mmh. Et puis j'aime bien l'idée finalement de la folie. Dans un village où j'allais quand j'étais petit, où je continue d'aller, mais cette personne est morte, il y avait une femme qu'on disait schizophrène, ou je sais pas trop quoi, et qui racontait, qui avait des propos incohérents, quoi. Mais je trouve ça beau, moi, les propos incohérents. Mmh. Parce qu'ils sont incohérents pour nous, peut-être, quoi.
Artaud se considérait lui-même comme fou.
Ouais. Et je crois que c'est une, de se considérer comme fou, d'accepter l'idée de la folie est une forme de sagesse. Déjà.
Mais ces limites, limites qui déterminent la normalité dont vous parliez, vous vous situez à l'intérieur ou à l'extérieur ?
Non, moi je me mets, moi je me mettrai à l'intérieur puisque puisque je suis pas enfermé, voilà. Bon après on peut parler politique quoi, mais des gens qui décident à un moment donné d'aller faire une guerre et qui n'ont jamais été jugés comme pour un crime contre l'humanité parce qu'ils font partie des grandes puissances. Alors après on peut remettre en question qu'est-ce qu'est la démocratie, qu'est-ce qu'est la dictature, voilà. Qu'est-ce qu'est d'aller dans le monde imposer sa propre vision de la démocratie, sa propre vision du monde, est-ce que c'est pas une forme de dictature? Déjà.
Je reviens sur Artaud. J'ai une petite cerise sur le gâteau pour vous. On vous a retrouvé une archive assez incroyable. Antonin Artaud qui commente son état mental. Écoutez ce que ça donne.
J'ai été malade toute ma vie. Et je ne demande qu'à continuer. Car les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance, que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé suffit.
On dirait du Luchini en plus sobre, non?
Beaucoup plus sobre.
Ouais, sauf que lui, il joue pas, quoi.
Bon. Alors, pour le film, vous avez choisi Dao. C'est un film russe réalisé par Ilya Krasnovsky, c'est difficile à dire. Hein. Un film, le terme est réducteur pour ce qui s'apparente davantage à une expérience et qui est tout sauf un biopic d'Étienne Dao, n'est-ce pas, Charline?
Alors oui, effectivement. La base devait être un biopic du prix Nobel de physique russe Lev Landau, dit Dao. Un projet qui est devenu un film, je cite, une expérience immersive. C'est au théâtre du Châtelet jusqu'au 27 février. Et on peut donc découvrir la vie sous l'Union soviétique à travers 13 longs métrages présentés dans un univers un petit peu oppressant et très soviétique suprême.
In 2009, over 400 people left their everyday lives to go back in time to the Soviet Union, cut off from the modern world. For over 2 years, they lived and worked at the secret research institute. Over 700 hours of their real reactions to these extraordinary circumstances have been captured. 13 feature films and a slate of series have been created. The experiment is ongoing. Get as close as you want.
Alors pourquoi ce film russe? Eric Cantona, pouvez me répondre en russe?
Non, c'est un truc. Ça ouvre aujourd'hui, je crois. Mm-hmm. C'est au Théâtre du Châtelet.
Enfin, ça a ouvert la semaine dernière.
Ça a ouvert, oui, la semaine dernière.
En fait, c'est 13 films qu'ils en ont tiré. Mm-hmm. Qui, c'est entre 1h. Ça va de 1h30 à 6h. C'est d'une extrême violence des sentiments et de tout. C'est, il a enfermé des gens pendant 3 ans. Il a reconstitué l'institut du scientifique de l'époque. Mmh. Et ces gens-là ont vécu ce qu'ils sont vraiment dans la vie, quoi. Mais à l'intérieur de tout ça et au contact des autres, quoi. Et moi, j'en ai vu 4 de films. J'en ai vu 4 parce que je dois faire les voix. Enfin, je dois faire les voix. J'ai dû faire la voix sur un des films. Une voix, en fait, c'est les doublages comme à l'époque. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a une voix comme ça, sans émotion, qui traduit.
Oui.
Et ça rajoute de la violence à ce qui se passe, justement. Donc avant de faire ma voix, il fallait que je voie les films, que je rentre dans cet univers. Le réalisateur tenait à ce que je voie tous ces films. Et j'ai vécu quelques heures. Et j'en suis encore aujourd'hui hanté, quoi. Complètement. Mm-hmm. C'est un truc... Pour moi, il y a. On peut pas. Je sais pas si on peut considérer. Bon, un film est une œuvre d'art aussi.
Ouais.
Mais je sais pas si c'est une performance. Ça appartiendra à aucun collectionneur en tous les cas. Mm-hmm. Ça va voyager. Après, ça ira à Londres. Après, ça ira à Berlin. Mais c'est absolument exceptionnel. C'est d'une beauté déjà dans les images, dans la lumière, dans les couleurs, et tous ces personnages, des histoires différentes, des histoires d'amour, des histoires d'une violence des sentiments, qui est quelque chose, mais d'une force incroyable. Et autour de ça, il a construit, il a fait faire un bar, un restaurant russe, toutes les loges ont été refaites, avec des vieux sex shops de l'époque, puisque c'était en 38-68, de 38 à 68 à l'époque. Il y a des confessionnals, mais c'est on rentre dans cet univers et on rentre vraiment dans cet univers et on n'en sort franchement pas indemne. Et j'ai passé simplement quelques heures.
On peut y rentrer jusqu'au 27 février, c'est donc au Théâtre du Châtelet, ça s'appelle Dao, une collection de films russes de Ilya Krasnagovski, je le redis une fois. Pour la série, Eric Cantona, vous avez choisi Cadre Noir, c'est l'adaptation télé des romans de Pierre Lemaitre, une mini-série en 6 épisodes bientôt diffusée sur Arte, série dans laquelle vous allez jouer. Charline, j'imagine qu'il est beaucoup question de chevaux dans cette histoire.
Alors pas du tout, il est question d'Alain Delambre, un cadre cinquantenaire sans emploi depuis quelques années. Et un jour, un employeur accepte enfin d'étudier sa candidature, mais tout ceci a un prix. Alain Delambre est-il prêt à le payer ?
Écoutons Pierre Lemaitre sur son livre.
En fait, il y avait un peu de colère devant cette espèce de monde à deux vitesses dans lequel on a des charrettes entières de salariés qui se font vider de leur entreprise et parallèlement, les mêmes sociétés, celles qui licencient, qui font des profits que je trouve un peu obscènes. Voyant ça, j'ai eu l'idée d'un livre qui mettrait en scène quelqu'un qui se met en colère contre le système dont il est la victime.
Bon, voilà pour le principe. Donc, vous allez jouer dans cette série dont le tournage démarre dans les semaines à venir. Mais c'est, quand je vous demande de choisir par défaut, vous me dites ça parce que c'est un choix par défaut. Vous ne regardez pas la télé.
Je regarde pas la télé. Non, je regarde pas les séries non plus. Voilà. Donc la série culte, c'est ça que je vais faire.
Dont le tournage démarre dans quelques semaines. Bien, Eric, terminons cette pop liste avec la chanson. Et alors là, vous avez choisi Le Prisonnier d'Antoine Chiozzi, chanteur et romancier corse qui vient de faire ses adieux au Music Hall. La chanson date de 75. Écoutez.
Sin amore, perdonami, oh mamma, di fatti tanto male.
Eric Cantona, d'où vous vient cette passion pour Antoine Chiozzi que je découvre aujourd'hui grâce à vous et qui n'est pas sans me rappeler le Jean Mérand de Bruno Carrette?
Non, c'est une chanson, j'ai fait le tour du monde avec cette chanson.
C'est-à-dire?
Parce qu'à chaque fois qu'on me demande de chanter une chanson, c'est la chanson que je chante et je l'ai chantée partout. Même à Cusco, à 5h du matin avec les copains, on avait rendez-vous pour prendre une voiture et aller au Machu Picchu. Et puis je leur ai chanté Le Prisonnier d'Antoine Chiozzi. Parce qu'en fait, c'était mon grand-père qui chantait cette chanson. Mm-hmm. Voilà, il accordait la guitare pendant un quart d'heure. Et tout le monde attendait qu'il chante et toujours, il s'accompagnait et il chantait cette chanson. Chanson du Prisonnier. Qui est une chanson absolument sublime, je trouve. Mm-hmm. Il y a des paroles magnifiques. Voilà, c'est un mec en prison.
Attendez, montrez-moi ce que ça donne si vous l'avez chanté si souvent.
Je t'envie, petit moineau, toi qui viens quelquefois pour me rendre visite, perché sur l'un des barreaux de cette minuscule lucarne à l'air si triste. Mais lorsque toi tu ne viens pas, j'y vois un coin de ciel qu'on m'accorde en faveur. Et je t'attends chaque fois à croire que maintenant tu sais lorsque c'est l'heure. Sombris una nu et mamma se l'amore. Perdona mio mamma si fa tout tanto mal.
Bravo!
On a eu, je crois, pour l'instant, zéro invité capable de chanter la chanson culte
oui,
comme
oui,
ça.
Oui. Non, je suis prisonnier.
Oui? Vous êtes prisonnier? Non, c'est ce que raconte
la chanson. Et ma mère se meurt, pardonne-moi, maman, si je t'ai fait tant de mal.
Une chanson triste, en fait. Oui, enfin bon. je résume. Antonin Artaud, Dao, Cadre Noir et Antoine Chiozzi. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
J'ai été malade, toute ma vie.
Cut off from the modern world.
Et je ne demande qu'à continuer.
For over 2 years, they lived and worked at the Secret Research Institute.
Et c'est ainsi, si délirante que puisse paraître cette affirmation, ce n'est pas l'homme, mais le monde qui est devenu anormal.
The experiment is ongoing. Get as close as you want.
La bonté.
Perdona mio mamma, si fa tutto male.
Eric Cantona, je dirais que la couleur générale de vos choix en ce mois de janvier 2018 tend plutôt vers le sombre. Enfin, on est assez loin de Mary Poppins. Hein. C'est votre humeur du moment, Eric?
Sans doute. Ouais. Mais c'est beau, ça, ce truc d'intelligence artificielle que vous avez fait, là. Vous avez...
L'intelligence artificielle est...
Tout artificiel.
C'est magnifique, ça.
Non, c'est notre réalisateur, oui.
Ouais. Je pourrais en avoir un petit bout.
Bah, évidemment.
Vous pouvez partir avec et faire un répondeur téléphonique. Tout ce que vous voulez. Vous repartez avec, c'est cadeau.
Trop
bien,
beau.
On passe de Antoine Tchosi à Oasis, Eric Cantona, si vous le voulez bien, pour écouter « Don't Look Back in Anger ».
Sometimes in blue.
Don't Look Back in Anger, Oasis, Oasis Manchester, Manchester Eric Cantona, mais oui, bien sûr, tout est lié dans Pop 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 sur France Inter. Nous sommes donc toujours en compagnie d'Eric Cantona et vient de nous rejoindre Sébastien Bédbédé, le réalisateur du film Ulysse et Mona, dont nous allons parler maintenant. Bonjour Sébastien
Bédbédé.
Et bienvenue dans notre studio. Alors Ken Loach, le réalisateur de Looking for Eric, parle d'Eric Cantona comme d'un acteur qui a du flair et de la sincérité. Et vous, comment est-ce que vous le définiriez ?
Ah, c'est pas mal, c'est difficile de passer après la citation de Ken Loach. Non, moi j'aime bien définir Eric comme un personnage de roman en fait. Enfin moi je l'ai abordé comme ça lors de notre première rencontre en fait. J'ai été vers lui comme j'irais vers un personnage de roman un peu mystérieux et avec des failles, des paradoxes. Et le but c'est ça, c'est en lui proposant de travailler avec moi, c'était d'essayer de résoudre un peu ce mystère et de le transposer dans un personnage, dans deux personnages, parce qu'on a fait deux films ensemble aujourd'hui. Et j'aime bien cette idée, ouais, d'un personnage très romanesque en tout cas.
Alors maintenant, on sait comment il vous a choisi, mais vous, Eric, comment choisissez-vous vos réalisateurs ? Qu'est-ce qui vous décide en dehors du scénario proprement dit ?
Ben c'est la rencontre avec le réalisateur. Ça peut être par exemple Yann Gonzalez avec lequel j'avais fait les rencontres d'après minuit. Il m'avait envoyé ses courts-métrages aussi, en même temps que le scénario. J'avais vu les courts-métrages avant. Et je pense que si j'avais lu le scénario comme ça sans me voir ce qu'il avait fait avant, peut-être que je l'aurais pas fait.
Ouais.
Mais j'ai vu toute son élégance. On peut tomber très vite dans le vulgaire, mais quand c'est tellement bien mis en scène, bien filmé, bien dirigé comme il le fait, ça devient un grand film.
Donc le facteur humain compte beaucoup.
Ouais, puis le facteur artistique aussi, ouais. De la personne, de son univers artistique. C'est ça, après ça peut être... Bon, en tous les cas, j'ai la chance de pouvoir choisir, quoi. J'ai la chance de pouvoir choisir. Je reçois pas des milliers de choses, mais j'ai la chance de recevoir des choses que j'aime. Et chaque fois que je choisis quelque chose, c'est vraiment parce que je l'aime, quoi.
Sébastien, vous le disiez, c'est votre deuxième collaboration avec Eric après Marie et les naufragés, qui était sortie en 2016. Dans ce film, vous faisiez de lui un romancier. Cette fois, c'est un peintre plasticien. Vous ne le projetez que dans des professions artistiques. À quoi est-ce que ça tient ?
Dans quasiment tous mes films, il y a un artiste, en fait, ou un ou deux ou plusieurs. Et c'est vrai que dans Marie Naufragée, c'était un écrivain qui se servait de son quotidien pour le magnifier et pour créer. C'est une espèce de personnage d'autofiction, en fait, on pourrait dire ça aujourd'hui. Et pour Ulysse et Mona, l'enjeu, il était encore plus énorme, en fait, parce que c'était un film qui traite d'un artiste contemporain qui a décidé d'arrêter de travailler. C'est ce qui est un choix très radical. C'est de refuser de créer, et pour des raisons assez mystérieuses, qui sont certainement une adéquation à l'époque, au contemporain, et une espèce d'honnêteté de se dire ça ne sert à rien que j'ajoute quelque chose à ce chaos, pour aller très vite. Et je crois que ce personnage, il ressemble peut-être encore plus à Eric que le personnage de Marie et le naufragé. Voilà, je parlais tout à l'heure de mystère et d'une espèce de mutisme qui ne demande qu'à être rompu. Et l'histoire un peu d'Ulysse et Mona, c'est ça en fait, c'est comment un personnage va réaliser sa dernière œuvre, et sa dernière œuvre n'est pas une œuvre plastique, mais une œuvre faite de rencontres. Et je réponds un peu de manière évasive à la question, mais tous ces éléments ressemblent à l'idée que je me fais d'Eric, à l'idée un peu plus précise maintenant, parce que on commence à se connaître à l'air de rien.
Et vous, Eric, est-ce que vous êtes sensible à l'image que les réalisateurs projettent sur vous ? Vous qui dites souvent mal vous connaître, qu'est-ce que ça vous apprend ?
Je ne sais pas si ça m'apprend tellement de choses.
C'est pas anodin que vous soyez souvent distribué dans des rôles d'artistes ou d'hommes mystérieux,
ouais,
ou d'icônes.
Pas toujours des rôles d'artistes dans les deux films qu'on a fait ensemble avec Sébastien, oui, mais autrement, non. Mais c'est souvent, en tous les cas, des bons, quoi. Voilà. Peut-être que j'aimerais jouer un jour un méchant, quoi, mais on n'a jamais vraiment proposé. Ou alors c'est un méchant, mais qui a toujours
une bonne raison,
un bon fond.
Ouais, un bon fond. Ouais, c'est la brute au cœur tendre, quoi. Je sais pas, on cherche peut-être une certaine mélancolie quelquefois, ou d'autres choses, mais j'aimerais jouer un mauvais. Après, qu'est-ce qu'est le bien et le mal, j'en sais rien. Mais voilà, mais, bah, en tous les cas, je cherche pas à me faire aimer dans mes choix. Quoi.
Ouais, mais le mauvais, il commence pas à se poser ce genre de questions. Sinon, il est pas vraiment mauvais.
Plus.
Ulysse et Mona, c'est l'histoire d'un artiste contemporain qui a mis fin à sa carrière et qui vit désormais seul avec son chien Joseph dans un vieux manoir en plein milieu de la forêt. Mais un jour, Mona, une étudiante de 20 ans aux Beaux-Arts, fascinée par le travail de l'artiste, décide de partir à sa rencontre.
Je comprends pas pourquoi tu t'intéresses à ce type. Sérieux, tu veux vraiment devenir son assistante?
J'ai besoin d'apprendre.
Qu'est-ce que vous faites là?
Vous voudriez toujours m'assister.
Tu préfères la naissance de l'amour ou kiffer ta life?
C'est ta fille.
Tu préfères une grâce?
C'est mon assistante.
Ou moi aussi, j'ai envie de construire quelque chose de beau à partir du mal.
Faire la vérité.
S'embête pas. Elle prend combien?
Franche.
Personne ne s'est jamais battu pour moi.
Je m'étais jamais battu pour personne.
Tu préfères être ivre mort?
Qu'est-ce qui s'est passé?
CAC 40.
Je t'ai pas dit toute la vérité, Mona.
Comment ça? Je verrai jamais les moments passés avec toi.
Ulysse et Mona, le nouveau film de Sébastien Benbédé avec Éric Cantona. Alors Éric, je ne sais pas pourquoi, mais bizarrement, exactement comme Sébastien, je vous imagine bien vivre seul en plein milieu d'une forêt. M'abuse-je?
Ouais. Non, après j'ai besoin de ma famille et de mes amis, quoi. Bah, non, puis j'ai besoin des gens, j'ai besoin du monde, j'ai besoin des gens qui m'entourent, j'ai besoin... Parce que j'aime bien regarder les gens, j'aime bien les observer, parce que j'aime bien avoir des idées, j'aime bien être inspiré, je sais pas vers quoi ça nous mène, mais en tous les cas, le sentiment d'être inspiré, quoi. Donc j'ai besoin des autres, quoi, mais de l'autre côté, mon idole, c'est un grand-oncle que j'avais, qui vivait en Ardèche, qui s'appelait Auguste Lacontre, et qui vivait en ermite. Mmh. Voilà, donc...
En tous les cas, un peu à l'écart.
Un petit peu à l'écart, parce que vivre au milieu des autres, ça ne veut pas dire vivre avec les autres. Mmh. C'est vivre des autres.
Mmh. Sébastien Benbédé, vous dites avec Ulysse et Mona avoir voulu tenter, je cite, un film de rencontre plus qu'un road movie. Quelle référence est-ce que vous aviez en tête pour ce genre assez particulier, mais pas nécessairement très défini pour le coup?
Oui, c'est vrai que c'est pas un genre en soi, et en même temps, il y a des films qui m'ont interloqué dans ce processus-là. Je pense à plusieurs films de Jim Jarmusch, par exemple. Voilà, ou même un film comme Holy Motors de Carax, qui est un film de rencontre aussi. Je trouve que c'est un dispositif qui permet de faire éclater des scènes et j'aime l'idée qu'un personnage se définit aussi face aux autres personnages qui rencontrent, en fait. Je crois qu'on est ce qu'on est parce qu'on est face à l'autre et qu'on se confronte à ces paradoxes. Je parlais de paradoxes tout à l'heure par rapport à Eric. Mais voilà, je pense que Ulysse existe par ces personnages qu'il a abandonnés, parce qu'il le dit, et qu'à ce moment-là, très précis de sa vie, il éprouve le besoin d'aller les retrouver. Et c'est pas un road movie, effectivement, parce que les choses se passent comme des rendez-vous plus que comme une errance.
Sébastien, l'idée du film vous est venue grâce à une artiste, Marina Abramovic, qui avait réalisé une performance étonnante au MoMA en 2010, en restant immobile et silencieux sur une chaise dans une pièce, face à des gens qui venaient la voir. Moi, j'avais adoré la performance de l'artiste italien Sven Salbert, qui a passé 2 jours à chercher une aiguille dans une botte de foin au palais de Tokyo. Ça pourrait vous donner l'idée d'un nouveau film?
Mais oui, pourquoi pas. Avec un personnage qui se vivrait dans une maison isolée, avec des champs à côté, oui, ça serait bien.
C'est pas mal, ça.
C'est un off Avignon, non, vous croyez pas? C'est un off Avignon. De 4 heures.
Bon, faisons une petite pause dans cette conversation, messieurs, si vous le voulez bien. Éric Cantona, Sébastien Benbédé, est-ce que vous savez faire ça tous les deux? Éric? Sébastien? Les deux savent le faire. Parfait. Bravo, c'est pour lancer les Pop News.
Des nouvelles d'un de nos chouchous. Bon, ok, un de mes chouchous sous forme de documentaire. Miles Kane a filmé et documenté sa tournée. Le résultat s'appelle Coup 2 2018 et ça ressemble à ça.
Feel like humbled in a way that I don't know. It's made me feel without getting too yoga zone on everyone. Like I feel centered and I feel confident again and feeling solid and I feel like yeah, this is where we belong. You know. You slip like a driver, my head
Non, il n'a pas du tout d'accent. Il dit qu'il est très content et Miles Kane revient pour une série de concerts en France. Ce sera en mai et c'est vraiment à ne pas rater. Toutes les dates sur franceinter.fr.
Un biopic d'un genre très particulier est actuellement présenté au festival de Sundance, puisque le sujet du film, c'est Ted Bundy, le tueur en série, raconté par les rapports qu'il entretenait avec sa petite amie Elisabeth Klopfer. Le film s'appelle Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Bande annonce.
That guy's been staring at you all night.
What do you say we get out of here?
What is it about this guy? When I feel his love, I feel like I'm on top of the world.
There are things you don't know.
Hi, officer. I think I must be lost.
That will shock you beyond your worst nightmare.
I am innocent.
You don't actually believe this garbage, do you?
It's in all the papers, Ted.
Monkey! Oh!
How did his name get on that suspect list?
Dans le rôle de Ted Bundy, Zac Efron et celui de sa compagne Lily Collins. Et au casting également, Haley Joel Osment, celui qui voyait des gens morts dans le sixième sens, et James Hetfield de Metallica.
Kurt Weill dévoile un inédit, un titre tiré de la session d'enregistrement de son dernier album, Bottle It In, sorti en octobre dernier mais resté caché jusque-là. Ça s'appelle Timing Is Everything and I'm Falling Behind.
Timing is everything and I'm falling behind.
Le titre n'est pour l'instant disponible que sur la plateforme de streaming musique d'Amazon et Kurt Weill sera à l'affiche le 30 mai du festival This Is Not a Love Song à Nîmes.
France Inter. On peut pas. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
C'était Eric qui doublait le personnage de Moi Moche et Méchant. C'était une tentative d'imitation.
Exactement, ouais, bien, bravo Charline. Bien, on continue à parler de pop, de culture et de pop culture juste après un morceau des White Stripes qui est devenu un hymne malgré lui dans tous les stades de foot du monde. Yeah.
vous, vous fréquentez assidûment les stades.
Les White Stripes, Seven Nation. Vous écoutez Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et vous venez d'entendre donc Seven Nation Army. Nous sommes toujours en compagnie de Sébastien Bedbédé et d'Éric Cantona, venus nous présenter le film Ulysse et Mona, qui sort aujourd'hui même sur les écrans.
Alors, tout à travers le film, et même dans ce que vous en expliquez, Sébastien, vous dites que l'intégrité artistique, c'est une condition sine qua non quand on choisit de fabriquer des œuvres d'art, y compris au cinéma. Sur quoi est-ce que vous avez refusé de transiger pour Ulysse et Mona? Quelles étaient vos conditions à vous, sine qua non?
Je sais pas, il y en avait beaucoup, mais en fait c'est presque je laisse même pas le temps, disons, au moyen de pression de s'imposer, quoi. C'est-à-dire que c'est un film qui s'est fait avec un budget assez réduit, et quelque part c'était très bien pour le film, en fait. C'est-à-dire que faire un film sans moyen de pression, ça permet d'avoir à peu près toutes les libertés. C'est-à-dire que il était hors de question qu'on choisisse un casting à ma place. Puisque Eric est là et qu'il me regarde avec des gros yeux, non, c'est pas vrai. mais voilà, le casting, c'est moi j'ai l'habitude de dire que, et c'est aussi une banalité, que c'est l'essentiel une fois que le scénario est fini, c'est le choix de la personne qui va interpréter, ou les gens qui vont interpréter les personnages de mon film, et va déterminer la réussite ou non du projet. Et sur ce film, il y a beaucoup de personnages secondaires, et tous les personnages secondaires, c'est des gens avec qui j'avais envie de travailler. Je crois que c'est un film de comédien aussi. Avant tout, de personnages et de comédiens. Donc là, voilà, le truc essentiel pour moi, c'était de travailler avec les bons partenaires et les bons partenaires de jeu.
Éric Cantona, vous avez grandi en découvrant Miro, Picasso, Kandinsky grâce à votre père qui vous emmenait dans des galeries d'art. Et je sais qu'aujourd'hui, dans vos influences, ben, on retrouve ce type-là.
I guess Terry showed up at a time when I realized that the reaction to this stuff was, you know, one of the most interesting things about it. Because for me, it's an important part of the job to run away as soon as we've done it. But at least with Terry, we had someone hanging around afterwards who could capture some of it.
On entendait Banksy, qu'on ne désespère pas d'avoir comme invité un de ces jours dans Pop, qui disait en gros, hein, je me suis rendu compte que la réaction à mes œuvres était une des choses les plus intéressantes, parce que pour moi, une partie importante de mon travail consiste à fuir une fois que mes œuvres sont terminées. Donc ce Banksy, c'est quelqu'un qui compte pour vous? Vous pouvez me dire pourquoi?
Banksy, comme plein d'autres artistes, hein, je suis collectionneur, moi, en plus, et voilà, non, c'était, il y a plein d'artistes qui m'intéressent, plein d'artistes que j'aime, il y a plein d'artistes qui, voilà, j'ai jamais acheté un truc qui me plaisait pas, parce que il fallait investir, parce que ça pouvait augmenter, non. Après, j'achète des choses avec d'artistes que j'aime vraiment, et en espérant que
la notoriété viendra.
Voilà. Mais tous ces artistes, plein d'artistes m'inspirent. Mais Banksy, pour moi, c'est peut-être aujourd'hui l'artiste contemporain qui me surprend le plus, quoi. Qui me touche le plus et qui me surprend le plus. À chaque fois qu'il fait quelque chose, il nous surprend, quoi.
Et ce que vous aimez chez lui, c'est sa manière de contourner les règles de l'art, comme par exemple en vendant à la sauvette des œuvres à lui dans les rues de New York pour $60.
Ouais, une des choses qu'il a faites, ouais, à New York. Puis il a dit que pendant un mois, tous les jours, il allait faire une œuvre. Il y avait toute la police de New York qui le recherchait. Et le dernier jour, il a écrit sur un building, au top d'un building, sur 10 mètres de long, Banksy, et puis il est parti.
Et ça voilà. Vous plaît, ça?
Non, mais ouais, mais parce qu'il y a plein de. Bon, ça me plaît, ce côté un peu insolent me plaît. Mais ses œuvres, il y a toujours des messages très très forts dans ses œuvres. Il a fait des œuvres. Mais à New York, magnifique, sur les Indiens aussi, sur voilà, et la dernière œuvre qu'il a faite à Sotheby, la maison de vente.
La mission impossible, ce message s'autodétruira, oui. C'est difficile à dire.
Ouais. Ouais. C'est l'hôtel qu'il a ouvert en Cisjordanie, il y a plein de choses qu'il a faites qui sont magnifiques. Voilà, il y a toujours des messages très 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 forts.
Et vous avez un peu la même approche, parce que vous aussi vous aimez détourner les codes. Je me souviens par exemple de la fois où vous appeliez les Français à retirer leur argent des banques. C'était une manière de détourner les codes bancaires.
Ouais, c'était pas une œuvre d'art. Hein.
Ça peut être considéré comme une œuvre d'art, je suis désolé.
Ouais. Non, j'ai pensé après en faire quelque chose, parce qu'en fait, ils en ont parlé, il y a eu des débats dans 70 pays. Et je voulais faire, vraiment, hein, Et j'avais mis quelqu'un sur le coup pour faire ça, mais après, il faut acheter des droits et tout. Je voulais récupérer tous les droits. Et donc, mettre 70 télés avec les 70 pays comme ça, tout en même temps, pas une plus en avant que l'autre. Mmh. Donc, ça aurait été comme une sorte de brouhaha et que cette œuvre soit financée par une banque.
Une banque-ci ?
Pas une banque-ci.
Je ne sais pas s'il y a eu un mécène sur ce coup-là.
Pardon ?
Je ne suis pas sûr que vous auriez trouvé un mécène sur ce coup-là. Enfin, en tout cas, pas un banquier, je pense.
Ben, moi, s'il y a des banquiers intelligents, je trouve que... ouais.
Alors, en contournant les codes toujours du monde de l'art, vous aviez demandé à l'artiste John Wan de graffer votre Rolls en direct sur Canal+, pour la vendre ensuite aux enchères au profit de la Fondation Abbé Pierre. Une œuvre roulante vendue 125 000 euros. C'est quoi votre prochaine action ?
Ma prochaine action ?
Qu'on puisse annoncer à la radio, bien sûr.
Ma prochaine action, je fais des trucs comme tout le monde. Hein. Mm. Je fais des trucs comme tout le monde et je continuerai d'en faire comme tout le monde. Ouais, je voudrais faire plus, mais je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus parce que j'ai pas le temps de tout faire et de vouloir tout faire. C'est finalement pas une bonne chose pour le reste. Quoi. Je pense qu'il faut se concentrer sur un ou deux trucs importants. Moi, tout est important. Et essayer de le faire bien, et de le mener au bout, et d'être fidèle à ce qu'on fait, fidèle aux gens, fidèle à tout le reste. Quoi.
Voilà. Et ce qui est important, c'est le retour, votre retour, Eric Cantona, au cinéma, dans le film de Sébastien Bédé, ça s'appelle Ulysse et Mona, ça sort aujourd'hui sur les écrans. Il faut aller le voir. Eric Cantona, Sébastien Bédé, on approche de la fin de l'émission, et il est l'heure pour moi de descendre à la cave, chercher le dernier vinyle de l'émission. Allez, j'y vais. Ah, mais vous êtes qui, vous ?
Con licença, ou entre aquí perché sei que vossa este recebendo Cantona.
Pardon, vous êtes incrusté dans ma cave parce que vous savez que je reçois Eric Cantona, oui ? Et alors ?
El sou vizinho di señor Cantona, que mora aquí ancora in Portugal, e sei que ele fez pub há muito tempo para Navaias.
Je traduis hein, pour ceux qui ne parlent pas le portugais. Alors, monsieur Cantona vit désormais au Portugal, il a fait une pub pour les rasoirs il y a quelques temps, mais ok, mais quel est le rapport ?
Esta es miña esposa, es finalmente, especialmente miña esposa gustaría de saber si él podría hacer un deles para nos portugueses.
Ah, je veux dire que... ok, d'accord. Votre femme et vous voudriez savoir si Eric pourrait refaire une pub pour les rasoirs, c'est ça ?
Especialmente para minha esposa.
Surtout pour votre femme, oui, d'accord, on a compris. Bah, écoutez, là je ne peux pas faire grand-chose pour le moment, je peux vous jouer un artiste très très poilu si vous voulez. Chichi, oui, ok. Bon ben tiens, Demis Roussos, quand je t'aime. Ça c'est une première sur France Inter.
Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier volontaire. Quand je t'aime, tous mes gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Quand je t'aime, il est minuit, ensemble. Quand je t'aime, je ne sais plus si je suis un mendiant ou un messie, mais nos rêves se ressemblent. Quand je t'aime, tous mes gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour. J'ai des fleurs au bout des doigts, et le ciel que je te dois est un ciel sans étoiles. Quand je t'aime, j'ai la fièvre
sang et ce plaisir innocent me fait peur, me fait mal. Quand je t'aime, tous mes gestes me ramènent à te lèvres.
Demis Rousseau sur France Inter. Je répète, Demis Rousseau sur France Inter avec un morceau qui s'intitule, on l'aura compris, Quand je t'aime. Merci, merci Eric Cantona.
Merci.
Merci d'être venu.
Non.
Et merci. Merci Sébastien Bedbédé. Eric Cantona, Sébastien Bedbédé, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai l'intention de transformer ma cave en musée. Si je vous demandais de laisser un objet dans cette cave, quel serait-il ?
T'as réfléchi à la question, Eric, toi, non ?
Non, 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 chacun espérait que l'autre allait réfléchir.
Ah oui, c'est ça, la question.
Un objet.
Un poil.
Un quoi ?
Un poil.
Un poil. Eric Cantona laisse un poil dans ma cave, c'est ça ? Ok. Et vous, Sébastien ?
L'intégrale d'Emis Roussos.
L'intégrale d'Emis Roussos. Ben voilà, ça va meubler. Merci, merci d'être venu. Ulysse et Mona, ça sort aujourd'hui en salle et je vous souhaite bonne chance pour la sortie de votre film. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Ludovic Asselot, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production et la programmation musicale le Djoubaka. Merci Djoubaka pour Demis Roussos. Demain, on se retrouve pour un nouveau numéro de Pop Pop Pop. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur France Inter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos épilation sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast.
Faut pas le faire avec du scotch.
Vraiment mal, oui. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615 pop 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 sur Instagram et Twitter.